Vous écoutez Ballet Pat saison 2, épisode 2. La légende du sexe surdimensionné.
Un podcast RFI.
Pour démarrer cet épisode, je vais vous raconter l'histoire d'une femme africaine trimballée et abusée comme un objet de foire. Sarge Bartman ou Sarah Bartman, de son vrai nom Sauchi. Cette femme était de l'ethnie Hottentote d'Afrique du Sud. Elle a été achetée en 1807 dans la colonie du Cap sous domination néerlandaise, puis britannique. Elle est réduite en esclavage, violée et exhibée nue à partir de 1810 en Europe pour son corps jugé hors norme. Étant une femme noire avec des formes inhabituelles pour le monde occidental, Sarche Bartman a été surnommée la Vénus Hottentote. Surnom qui peut sembler flatteur, mais en réalité, c'était pour encore plus la tourner en dérision. Car, explique l'enseignante chercheuse Delphine Peretti-Courtis, elle symbolisait une étrangeté raciale et appartenait à un peuple considéré comme inférieur. Cette femme a été enfermée dans une cage et exposée dans des spectacles de cabaret pendant des mois partout en Europe, notamment à Londres et à Paris, comme un objet de musée ou encore comme un animal que l'on viendrait admirer, si ce n'était que de l'admiration. Des centaines de personnes, hommes, femmes et enfants, se sont pressés pour aller regarder ses formes et sa nudité, se moquer, la tripoter comme une bête de foire. Le calvaire de Sarge Bartman ne s'est pas arrêté là. Même après sa mort, son infortune et le voyeurisme ont continué quand le monde scientifique s'est emparé de sa dépouille. Si j'ai pris le temps de vous raconter cette histoire qui me révolte, c'est que son corps, considéré comme non conforme, a servi à stigmatiser le corps des femmes noires. Delphine Peretti-Courtis.
Tout ce qui a été écrit autour de Sarge Bartman, cette femme d'Afrique du Sud qui a été surnommée la Vénus Hottentote, fait partie de cette médecine des races et illustre bien en fait comment à partir d'un corps, on a généralisé des théories à des populations entières parce que cette femme a incarné, au départ c'était les femmes d'Afrique du Sud, les femmes surnommées Hottentote et Boshiman, que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de peuple Khoisan, mais elle est ensuite devenue, un siècle plus tard, l'archétype de la femme africaine. Et en fait, à partir de la dissection de son corps, on a considéré qu'elle avait des caractères d'animalité et des caractères aussi d'hypersexualité. On considérait que ses organes sexuels étaient hypertrophiés et c'était, pour Georges Cuvier, celui qui l'a disséqué, un caractère de race, mais aussi le signe d'une hypersexualité. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que le discours de Georges Cuvier, alors il a eu tant d'impact parce qu'il était renommé au sein des scientifique française, mais aussi européenne et américaine. On le cite encore 60 ans plus tard aux États-Unis pour démontrer que les femmes africaines appartiennent à les Africains d'ailleurs, d'une manière générale, pour ces médecins, appartiendraient à une autre espèce humaine. Donc on voit bien comment d'un seul rapport médical et d'une seule personne, qui en fait, on le saura plus tard, avait des caractéristiques qui étaient individuelles et elle avait une spécificité, une déformation de la colonne vertébrale et on a considéré que c'était un caractère de race à l'époque. Et on voit bien comment d'un seul discours, en fait, ce discours s'est vu réapproprié par des scientifiques du monde entier pour justifier des théories raciales jusqu'au début du XXe siècle. Voilà, il faudra attendre le milieu du XXe siècle pour que cela soit progressivement déconstruit. Mais on sait que le moulage de son corps était encore présent en 1974 à Paris, au Musée de l'Homme.
Les scientifiques de l'époque vont aussi utiliser ces clichés sur les Noirs pour entretenir les préjugés autour de leur sexualité. Notamment le pénis des hommes noirs qui serait plus proéminent que celui des autres hommes et qui serait adapté au sexe des femmes noires. Delphine Peretti-Courtis écrit « La littérature médicale mentionne en effet comme caractère racial spécifique à l'homme noir son appareil génital supposé hypertrophié. Celui-ci correspondrait au surdimensionnement de l'organe sexuel féminin. Déduction, la femme noire et l'homme noir ont une sexualité excessive et débridée. » Fin de citation. En poursuivant mes recherches, je me suis rendu compte que la domination coloniale a non seulement servi à déposséder les hommes noirs de leur identité masculine, mais elle a aussi utilisé les femmes noires pour les déprécier. Ils étaient mis sur le même pied d'égalité que les femmes. Pas une égalité en droit, mais une égalité de mépris. Cette perception a été construite en partie par les sciences naturelles et la médecine. Écoutons encore Delphine Peretti-Courtis.
Alors la médecine a joué un grand rôle, déjà dès le milieu du XVIIIe siècle. Ce n'est pas la médecine en tant que telle, mais les sciences naturelles, l'histoire naturelle qui crée la race en quelque sorte et qui attribue aux hommes noirs et à ce que l'on appelle la race noire à l'époque en général, un tempérament dit lymphatique. Et ce tempérament est celui que l'on attribue également au sexe féminin. Alors, il y a une forme de défémination dès le milieu du XVIIIe siècle de l'homme noir. Et tout au long du XIXe siècle, on retrouve des études médicales très détaillées, alors sur le cerveau par exemple, sur le crâne, sur le corps, sur la pilosité, qui contribuent à féminiser le corps de l'homme noir. On considère que son crâne a une conformation féminine. Et cela induit les médecins à dire que tout le comportement de l'homme africain est aussi féminin, ses préoccupations, mais aussi sa sexualité. Les médecins ont joué un grand rôle dans cette dépréciation de l'homme et du corps noir notamment, en l'efféminant, puisqu'on considère au XIXe siècle notamment que la femme n'a aucun droit politique, elle est inférieure intellectuellement. Et donc, assimiler l'homme à la femme à cette époque constitue une très grande dépréciation. C'est lui dénier tout pouvoir, toute puissance, et c'est donc dénier aussi sa possibilité de gouverner et de diriger. C'est aussi une façon pour les colonisateurs ensuite d'affirmer leur propre pouvoir, puisque eux se présentent comme étant virils, ils ont un tempérament sanguin, ils ont cette supériorité intellectuelle prétendument ancrée dans leur cerveau, dans leur corps, et cela constitue un moyen aussi pour eux d'affirmer leur pouvoir dans les colonies.
Toute cette rhétorique coloniale m'a permis de comprendre comment le mécanisme de détestation de la femme noire a été fabriqué. Entretenue, elle s'est peu à peu ancrée inconsciemment dans les esprits et les comportements. Au-delà du rôle joué par les sciences sociales dans toutes ces constructions, j'ai aussi appris comment les religions ont contribué à véhiculer les clichés sur la sexualité des hommes noirs. Le journaliste et écrivain Serge Billet l'expliquait il y a quelques années sur RFI dans l'émission Mémoire d'un continent.
Alors l'histoire est toute simple, celle qu'on connaît en tout cas à travers la Bible. Noé revient de la vigne, il a bu un tout petit peu trop, il est saoul, il se déshabille, il se met à hurler et là il y a son fils Cam qui arrive, qui le voit tout nu. Et à partir de là, donc il y a une version, la version officielle, qui dit que Noé est parti se coucher et à son réveil, lorsque les autres frères de Cam l'ont averti que Cam l'avait vu totalement nu, il s'est fâché et il a maudit Cam à voir sa descendance donc devenir esclave. Mais quand on regarde bien les textes de l'époque, qu'ils soient juifs, chrétiens ou arabes, on s'aperçoit que non seulement on dit que Cam a vu la nudité de son père, mais en plus, il a châtré son père et il a abusé sexuellement de lui. Cam devient un monstre sexuel et la punition qui lui est infligée, c'est certes de voir ses descendants devenir esclaves, mais ils sont aussi punis à porter un pénis ignominieusement long. C'est ce que disaient les théologiens de l'époque. Donc c'est de là que tout part. Le noir Cam, donc l'ancêtre des Noirs, voit sa descendance maudite et contrainte de porter un pénis ignominieusement long. Donc le sexe démesuré des Noirs devient le signe de leur infamie, mais aussi le signe de leur lubricité. Et à partir de là, siècle après siècle, on va véhiculer l'idée que les Noirs ont un sexe surdimensionné et naturellement un sexe à la place du cerveau et que ce sexe-là est celui qui représente donc leur fornication et leur part de diable.
Alors si on réduit la part du cerveau au profit du sexe, ça veut dire que l'humanité des Noirs est déniée presque de la même manière.
Elle est déniée dès le départ. À partir déjà du moment où on décide que Cam, ou en tout cas sa descendante, va devenir donc les esclaves des frères, ça veut dire que dès le départ, on le réduit donc à quelque chose d'animal. Il devient celui qui va servir. Mais en plus de ce côté animal, il y a ce côté bestial aussi qu'on ajoute avec la réduction à sa plus sexe expression, c'est le cas de le dire, où là, Cam n'est plus un être humain, il devient donc effectivement un animal, un diable, puisque à l'époque, les Noirs étaient à la fois assimilés donc à la fornication, mais aussi au diable. Et donc Cam devient l'instrument du diable.
Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que ça n'est pas seulement dans le Nouveau Testament, mais c'est vrai dans l'Ancien Testament, ça concerne le judaïsme et
les trois religions, il faut le dire.
Et aussi le Coran.
Oui, ça concerne les trois, et ce serait trop facile de dire oui, c'est la faute des juifs, la faute des arabes, la faute des chrétiens. Non, c'était tous les trois ensemble, avec certes des termes plus particuliers, le terme ignominieusement long à propos du pénis, on le trouve essentiellement dans les textes judaïques, mais c'est toutes les trois religions qui sont complètement embarquées dans ce système, et à partir de là, aussi bien chez les chrétiens, chez les juifs que chez les arabes, nous sommes vus comme étant des monstres sexuels.
Cette question de la sexualité des hommes noirs a aussi été abordée dans la littérature africaine actuelle. L'écrivain et sociologue sénégalais Elgas dans son roman « Mal noir ».
J'étais un bon élève de la santé publique, à contre-cœur. En enfilant le plastique, je la vis encore plus belle, plus impatiente. L'application de l'objet étranger me ramollit. Je gardais un semblant de cohérence dans le racornissement. Mais mon érection avait quitté le ciel des dieux impérial pour flotter dans une indécision troublante. Dans ce cellophane, il ressemblait à un boudin commercial mal rembourré. La panique me gagna. À vouloir établir mon honneur rapidement, j'augmentais mon inconfort. À vouloir préserver mon honneur, je l'exposais au grignotement. Et mon ego commençait déjà sa rétraction, offrant les premières mèches déchiquetées de ses lambeaux. Sylvie se montra silencieuse. Elle avait croisé les jambes d'un geste discret, très élégant, le regard fixé sur ce tableau, comme happé par le vide. Son sourire, qu'exauçait un brin de lumière, vira de l'amante bestiale à la mère attendrie. Cette vue me rendit encore plus épouvantablement seul, terriblement triste, vaincu. Mon sexe avait continué sa décrue, il était franchement devenu bien ridicule. Emprisonné dans ses ridules, il avait le visage de la peur engoncé dans son masque. L'angoisse m'avait inondé et coulé. Je me contentais d'un défaitiste. « J'ai un problème, je crois », auquel elle répondit par un inaudible. « Ce n'est pas grave. »
La fétichisation constante de la masculinité noire a érigé une rivalité sur le plan de la sexualité entre les hommes noirs et les hommes blancs. En 2017, la chroniqueuse en sexualité Maya Mazoret a publié un article intitulé « La peur surdimensionnée du sexe noir ». Elle expliquait que certaines actrices du porno refuseraient de tourner avec des hommes noirs. Tenez-vous bien, non pas qu'ils aient un pénis trop gros, mais que leurs petits amis ou leur époux leur interdisent ces partenaires-là. Ils auraient donc peur de ne plus être à la hauteur, car une fois qu'elles auraient couché avec des noirs, elles seront tellement impressionnées et satisfaites qu'elles ne voudront plus avoir de rapport sexuel qu'avec des noirs. D'où la fameuse expression « Once you go black, you will never go back », qu'on peut traduire par « Si tu essaies le noir, tu ne voudras plus jamais revenir en arrière ». En plus de cette rivalité masculine dans la recherche de la performance, les hommes noirs sont parfois caractérisés par une sexualité bestiale et un désir sexuel insatiable. Ils sont vus comme des prédateurs sauvages et dangereux qui feraient peur dans l'industrie de la pornographie. Delphine Beriti-Courtis.
Un point que j'ai vraiment étudié de manière très précise, c'est la question de la sexualité et les théories sur la supposée hypersexualité de l'homme noir ou de la femme noire. Cette légende, comme l'a écrit un auteur, Serge Billet, la légende du sexe surdimensionné de l'homme noir. Et justement, aujourd'hui, il y a encore des stéréotypes qui sont même réutilisés par l'industrie pornographique avec des sélections d'hommes qui incarneraient ce stéréotype, le stéréotype de l'homme noir avec un sexe qui serait surdimensionné. Enfin, j'ai lu de nombreuses études sur le sujet et il y a effectivement des peurs de la part d'actrices qui témoignent de cela, parce qu'il y a ce stéréotype de l'homme sauvage, entre guillemets, bestial, et qui aurait donc un sexe surdéveloppé, mais une propension à la sexualité bien plus importante. Et l'industrie pornographique joue sur ce stéréotype et contribue donc à le faire perdurer. Alors on sait que dès l'Antiquité, les Égyptiens attribuaient aux Éthiopiens cette caractéristique pour les bestialiser, pour les animaliser. Et au XIXe siècle, il y a une réappropriation de ces théories anciennes et une volonté d'ancrer cela, non plus dans une croyance ou un stéréotype, mais dans la science. Donc on cherche à prouver qu'il y aurait à la fois une conformation des cerveaux qui inviterait à une sexualité plus active, mais aussi des corps qui seraient conformés de telle manière que la sexualité serait plus intense. On considère que les femmes, comme les hommes, auraient des organes sexuels surdéveloppés, parce que cela répond aussi à leur propre discours, c'est-à-dire qu'ils cherchent à prouver qu'il y a cette prédisposition à la sexualité, au corps, aux ambisexuels et à l'assouvissement donc de tous ces plaisirs charnels, et non au contrôle de soi, au pouvoir politique, c'est-à-dire qu'en associant en fait des populations entières au corps et à la sexualité, on leur dénie la possibilité de développer une activité rationnelle ou intellectuelle. C'est-à-dire qu'il y a dans les textes de véritables répartitions. On ne peut, selon ces médecins et ces théoriciens du 19e siècle et des débuts du 20e siècle associent à la fois le corps et l'esprit. Et le corps est toujours associé aux instincts triviaux, aux plaisirs triviaux. Donc aujourd'hui, il y a encore, mais parfois sous le ton de l'humour, de l'ironie, de la blague, cette idée d'une sexualité qui serait plus intensive ou d'organes sexuels qui seraient plus développés. Mais cela est vraiment s'inscrit dans la continuité de cette pensée coloniale qui distribuait donc l'esprit à certaines populations et le corps à d'autres.
Un stéréotype qui, à force d'être répété, s'est installé confortablement comme une certitude. Et les personnes concernées ont elles-mêmes fini en grande partie par y croire. Serge Billet écrit dans son livre « La légende du sexe surdimensionné des Noirs ». La question de la taille du pénis est à ce point sensible en Afrique qu'elle a provoqué des drames dans plus d'un pays durant les années 90 avec ses fameuses affaires de rétrécisseurs de sexe. En effet, je me souviens que quand j'étais adolescente, ces histoires de disparition de sexe défrayaient souvent la chronique. On disait que des gens faisaient disparaître ou faisaient rétrécir le sexe après une simple poignée de main. Même si personne n'était en mesure de désigner des victimes, tout le monde y croyait et on refusait de serrer la main à quiconque nous tendait la sienne. Des personnes ont été même lynchées pour cette histoire, accusées à tort de ces faits irrationnels pourtant jamais prouvés. Toujours dans son roman « Mal noir », le sociologue et écrivain sénégalais Elgas décrit une situation où le personnage principal fait face à une panne érectile, un dysfonctionnement dont il se pensait à l'abri.
J'avais lu, entendu, mais surtout sérieusement ri et tourné en ridicule tous les confesseurs de panne sexuelle. La formule est affreusement mécanique. Mais cela ne devait arriver qu'aux autres. Mon âge était une immunité, avais-je toujours pensé. Ma race pouvait venir à la rescousse au besoin. J'avais bien de la sottise en réserve. Et voilà pourtant dans le ramollissement ironique que je bazardais tout par la fenêtre dans un débarras salvateur. Plus de 15 ans de relief peignant toujours dans les hauteurs m'avaient, pensais-je, affranchi. J'étais à bonne distance des ennuis prostatiques et des dysfonctionnements érectiles. Voilà que ma pénitence s'était rapprochée. En quelques minutes, cherchant des compagnons de malheur, je vis tout le monde mal, dans sa déchéance, m'entraînant à bout de bras, me traînant au besoin, malgré mes suppliques poignantes, vers le précipice. Entre moi et Sylvie, il n'y avait qu'un pas, mais un gouffre que le silence décuplé nous séparait. Elle se retourna, se couvrit la moitié du corps avec le plaid, j'enfilai un pull et m'établis au balcon.
La recherche de la performance sexuelle est devenue une obsession chez les hommes africains. En témoignent les demandes de consultation auprès de Jean-Paul Kwame, sexologue clinicien ivoirien. Il nous explique les raisons qui poussent les hommes à venir le consulter.
En Côte d'Ivoire, contrairement à la France, on dit chaque fois que ce sont les femmes qui consultent le plus. En Côte d'Ivoire, bizarrement, ce sont les hommes qui consultent le plus. Pas pour des problèmes familiaux ou conjugaux, mais pour leur performance propre.
La recherche de la performance sexuelle, c'est une obsession pour les hommes aujourd'hui, surtout les hommes noirs africains.
S'il y a un autre mot, je voudrais que vous m'empruntez ce mot-là, parce que l'obsession est vraiment petit. Ils sont vraiment fixés, omnibulés à l'effort d'avoir une érection qui serait dure comme un bois.
Cette course à la performance est aussi devenue un business florissant. Avec la vente d'aphrodisiaques de tout genre dont l'efficacité n'est scientifiquement pas prouvée. Une décoction appelée atoté a même fait son apparition en Côte d'Ivoire il y a quelques années. On ne connaît ni sa composition exacte, ni les doses de produits utilisés dans sa fabrication. Mais ses promoteurs et ses utilisateurs vantent ses vertus aphrodisiaques qui promettent aux hommes des capacités sexuelles pour faire monter leur partenaire au septième ciel. Cette boisson, qui au départ était vendue localement dans des boutiques, aux abords des routes et sur les marchés ivoiriens, est désormais commercialisée à l'international. On la retrouve même à la vente sur les réseaux sociaux. La renommée de ce stimulant sexuel va au-delà des frontières ivoiriennes. Il suffit de taper à Toté sur Facebook et vous vous retrouvez avec des dizaines de pages et des groupes de différents pays. À Toté Burkina, à Toté Thiès et Kaolack, même en France et en Belgique. Et les personnes qui en vendent n'hésitent pas à publier des vidéos de témoignages pour attirer de la clientèle. L'engouement autour de cette boisson intrigue jusque dans les médias.
Henri Joël, la cinquantaine, consomme de l'atoté depuis plusieurs années. Ce vendeur en est convaincu, cette boisson traditionnelle a des vertus.
C'est bien surtout pour tous ceux qui souffrent de l'hémorragie. Et ça fait que vraiment l'homme devient encore de plus en plus performant.
Dans sa boutique, Léandre vend plusieurs bouteilles d'atoté. Sur les étagères, il y a plusieurs marques. Sur chaque bouteille figure une photo.
Vu le succès de cet aphrodisiaque, l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique a annoncé en avril 2024 la suspension de la fabrication et de la commercialisation de l'atoté après des tests révélant, je cite, la présence d'importantes quantités de sildénafil. Et devinez quoi ? Il s'agit d'un générique de la pilule bleue, le Viagra, qui se retrouve donc dans un produit censé être 100% naturel et fabriqué avec des ingrédients issus de la médecine traditionnelle. Mais malgré cette interdiction, rien n'indique que cette mesure sera scrupuleusement respectée. Jean-Paul Kwame a déjà entendu parler de cette boisson.
Je connais l'atoté vraiment de très loin, hein, de très loin, en tant que spécialiste de la sexualité. Moi, je suis vraiment méfiant. Je ne vais pas vous dire ici que ce n'est pas bon, parce que je vois que beaucoup apprécient. J'ai pas encore reçu de patient qui me dit que j'ai consommé telle boisson, que depuis, je suis malade. J'ai pas encore, donc je ne connais pas les conséquences. Mais je me méfie quand même de cette boisson-là. Voilà. Ça a atteint un succès phénoménal, mais moi, je ne peux pas le conseiller à mes patients parce que je ne connais pas les composants.
Et certains de vos patients qui vous disent qu'ils la prennent, cette boisson ?
Oui, beaucoup quand même. Hein. La façon dont vous entendez en Europe, au Gabon, au Cameroun, qu'on utilise l'atoté, c'est comme ça aussi. Qu'en Côte d'Ivoire, ça a beaucoup de succès. En Côte d'Ivoire même, c'est encore moins cher. Puisque c'est à côté que les gens vont prendre. Donc, c'est beaucoup plus moins cher. Si en France, vous qui vivez en France, vous estimez que ça a du succès, donc imaginez en Côte d'Ivoire où le prix est 2 ou 3 fois moins. L'homme, de façon cliché, dans son imagination, pense que s'il fait gêner une femme, il recevra en retour la considération et le respect. Mais si c'est le contraire, il recevra en retour l'humiliation, la frustration. C'est un peu comme un fouet. Le pénis pour les hommes est considéré comme un fouet. Je vais la corriger. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce genre de propos. Je vais la corriger ce soir. Une sorte de domination. Parce qu'on se dit, tant que j'ai le déçu, tant que j'arrive à lui faire dire n'importe quoi au lit, à faire gêner, eh bien, je domine, donc j'ai du respect, j'ai de la considération. Je suis un homme.
Et vous, avant que vous deveniez sexologue, vous aviez une idée prédéfinie également sur la sexualité de l'homme noir ?
Oui, bien sûr, je l'ai cru au début, que l'homme noir était assez fort, que l'homme noir était le plus puissant, parlant de sexualité. Étant adolescent, on a tous été adolescents, et les premières formations en sexualité, ça va être à l'école, avec les copains. Quand on n'a pas de devoirs, quand on a une heure creuse, toute la discussion ne va pas tourner autour des études, hein, des exercices qu'on a à faire, ça va tourner autour de la sexualité. Ça va tourner autour des nouvelles belles filles qui viennent d'arriver dans le collège, dans le lycée. Donc, à partir de ce moment-là, vous recevez des informations qui peuvent fausser votre sexualité. Et jusqu'à même à l'adolescence, jusqu'à ce que vous devenez papa, vous pouvez avoir des informations qui peuvent erroner carrément votre image que vous avez sur la sexualité. Je suis spécialiste aujourd'hui, donc je suis bien placé pour savoir que beaucoup de choses sont fausses, beaucoup de choses dont parlent les gens sur la sexualité sont fausses.
Vous l'aurez compris que tout au long de cet épisode, cette fixation sur la sexualité des hommes noirs est une construction sociale et elle ne date pas d'hier. Ce stéréotype est entretenu et utilisé contre ces hommes en fonction des situations, soit pour les humilier, soit pour les valoriser. C'est la fin de cet épisode, merci de m'avoir écouté. Dans le prochain, il sera question du rôle de la colonisation dans la construction des masculinités noires. Partagez ce podcast sur vos réseaux sociaux, parlez-en autour de vous, surtout aux hommes de votre entourage, car la question des masculinités est tout aussi importante que le féminisme. Vous avez aimé cet épisode ? Je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. N'hésitez pas également à vous abonner au podcast et à lui attribuer 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. À bientôt !